Bonjour et rebonjour, puisque j'ai vu avec plaisir que certains d'entre vous sont restés dans la salle. Donc, café littéraire de 12 heures, on commence à en faire, on continuera à en faire, parce que finalement, je vois qu'il y a toujours du public et que c'est un vrai plaisir de vous retrouver de plus en plus nombreux et passionnés à ces imaginales et ces dixièmes faire, on continuera à en faire, parce que finalement, je vois qu'il y a toujours du public et que c'est un vrai plaisir de vous retrouver de plus en plus nombreux et passionnés à ces imaginales et ces dixièmes imaginales. Trois auteurs autour de moi, Donc tout d'abord, on va commencer par Stéphane Beauverger, tout simplement, parce que Stéphane est cette année le vainqueur du prix Imaginal des lycéens, qui lui a été officiellement décerné par les lycéens vendredi, mais qui lui sera aussi décerné, puisqu'on le rappelle, lors de la cérémonie de ce soir. Je crois que ça devrait être à 19h30, si je me trompe.
Je crois que c'est à 19h30.
C'est ça, au Magic Mirror, numéro, est-ce que c'est mieux que moi? Deux. C'est le plus grand, c'est là-bas qu'on se retrouvera. Alors, pour écouter quelques discours, mais vous verrez, pas trop long, et puis boire le verre de l'amitié. Il n'y a pas de carton d'invitation, on le fait juste, mais vous êtes les bienvenus. Donc c'est, voilà, c'est aussi ça les imaginales. Le prix littéraire n'est pas porte fermée avec la surveillance à la porte. Les lecteurs passionnés, ils peuvent écouter un peu la remise des prix, venir boire un verre avec nous après, discuter avec les auteurs. Voilà, c'est aussi ça la magie des imaginales. On aime bien faire les choses avec le public, avec vous. Donc le Déchronologue, un roman qui est paru aux éditions La Volte, qui a été aussi réédité récemment par Folio SF, donc à la portée vraiment de toutes les bourses, soit la belle édition de nos amis de La Volte, ou alors l'édition poche chez Folio SF. On va voir qu'il s'agit à la fois d'histoire de pirates et de science-fiction. Ben oui, tout est possible, on imagine. Et puis, Les Pilleurs d'armes de Laurent Wall, que je salue, puisque c'est sa première invitation officielle aux Imaginales. Il est là avec deux casquettes, plus un chapeau. La casquette d'abord de traducteur, puisque cet après-midi et demain, il va traduire des auteurs anglo-saxons pour nous. Donc voilà, on est content de l'avoir parmi nous en renfort de l'équipe habituelle. Et puis, c'est aussi un écrivain. Il a publié dans une petite maison d'édition, une petite maison de bonne qualité. D'abord, Rivière Blanche, il a publié un roman de science-fiction, d'aventure. Et puis cette fois-ci, Astra Édition, un petit éditeur, mais qui publie des romans vraiment de qualité intéressants. Ad Astra, c'est Xavier Delot, le créateur. Et Xavier Delot, c'est tout simplement l'un des anciens membres du prix Imaginal. Donc vous voyez que, quelque part, les talents qu'on a vus ici il y a une dizaine d'années se retrouvent dans l'édition, dans l'écriture et ailleurs. C'est un peu une pépinière et ça nous fait très très plaisir de voir que Xavier fait des choses tout à fait passionnantes pour l'imaginaire. Donc, un roman, Les Pilleurs d'âmes, Laurent Wall, prix Ronnie Aîné 2011. C'est un des deux prix de science-fiction les plus connus en France. Il y a le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix Ronnie Aîné. Le prix de l'Imaginaire, c'est le prix des professionnels. Et le prix Ronnie Aîné, c'est un prix décerné par les amateurs et, on va dire, les fans, certains critiques aussi, ce qui veut dire des gens quand même avertis, puisque c'est le public qui vote librement sur l'Internet pour une première sélection. Et ensuite, ce sont les membres de la convention, 100, 150 personnes, c'est très pointu, mais ce sont des vrais fans et des vrais passionnés. Il n'y a jamais de mauvais livres qui ont le prix Ronnie Aîné. On peut toujours discuter, est-ce que le premier aurait peut-être le second, le second premier. C'est toujours le cas des prix littéraires. Mais je peux vous dire qu'en général, c'est toujours des très bons livres, ils tiennent la route. Et celui-là en particulier, je vois mal l'année 2011 qui aurait pu me battre parmi ces livres. Donc félicitations à Laurent Wall. Là aussi, des histoires de pirates. On va en parler rapidement. Et puis, Joanne Elliott, Le Seul des Trois, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, et en effet, je l'ai reçu hier. Donc, voilà. Ceci dit, les pirates, ce n'est pas la première fois que ça le travaille comme sujet, nous en dire un mot. Et celui-ci, j'ai voulu l'avoir tout simplement parce que d'abord, il est pour la jeunesse, roman pour la jeunesse. Et deuxièmement, que de belles illustrations. Qui est-ce qui a fait l'illustration?
Didier Graffet.
Didier Graffet, bah oui. Tiens, encore une fois, Didier Graffet, auteur d'une des affiches des Imaginales, on les retrouve. Donc, un roman flibustière, c'est le premier d'une trilogie?
Alors, non, il n'y a rien de déterminé.
Ah, c'est pas sûr.
Ça donnera lieu sans doute à un retour, avec une série, mais chacun se lira.
Chaque roman est isolé.
Voilà, tout à fait.
Chaque roman est indépendant, mais bon, visiblement, si le public fait un bon accueil, le personnage plaît bien. Non, c'est vous qui décidez, vous avez compris votre responsabilité tout à l'heure. Voilà, donc là, par contre, on est complètement dans le roman historique. On n'est pas dans la fantasy, on n'est pas dans la science-fiction, on est vraiment dans le roman historique. Et on verra que l'idée des Imaginales d'ouvrir au roman historique, c'est finalement pas si farfelu que ça, puisqu'il y a des rapports intéressants entre les auteurs d'imaginaire et les auteurs de romans historiques, et qu'on peut faire à la fois l'imaginaire et du roman historique. J'ai été trop long, je vais m'arrêter, je vais passer la parole aux auteurs. On va lire des extraits, vous connaissez le principe du café littéraire. Alors, Stéphane Beauverger, pour commencer, oui, on a un prix, on va faire chic, on va commencer par vous. Le Décronologue, alors c'est quand même un très étrange roman, parce que c'est un journal de bord d'un capitaine pirate, ça commence comme ça. Et on va peut-être justement donner envie au lecteur de se plonger dans les premières lignes de ce capitaine. À bord du Décronologue, après la débâcle, circa 1653. Je suis le capitaine Henri Villon et je mourrai bientôt. Non, ne ricanez pas en lisant cette sentencieuse présentation. N'est-ce pas l'ultime privilège d'un condamné d'annoncer son trépas comme il l'entend ? C'est mon droit. Et si vous ne me l'accordez pas, alors disons que je le prends. Quant à celles et ceux qui liront mon récit jusqu'au bout, j'espère qu'ils seront pardonnés un peu de mon impertinence et à l'instant de refermer ces chroniques, m'accorder leur indulgence. D'ici quelques minutes, une poignée d'heures tout au plus, les forces contre lesquelles je me suis battu en auront définitivement terminé avec moi et ceux qui m'ont suivi dans cette folle aventure. J'ai échoué et je vais mourir. Ma frégate n'est plus qu'une épave percée de part en part, au pont encombré par les cris des mourants, au coursif déjà noirci par les flammes. Ce n'est ni le premier bâtiment que je perds, ni le premier naufrage que j'affronte, mais je sais que nul ne saurait survivre à la dévastation qui s'approche. Bientôt, pour témoigner de l'épopée de ce navire et de son équipage, ne resteront que les pages de ce journal. Permettez donc que je prenne un peu du temps qu'il me reste pour les présenter comme je l'entends. Je me nomme Henri Villon et suis l'unique capitaine de la merveille baptisée des Chronologues. Il s'agit de mon véritable patronyme. Je me dois de le préciser, tant il est courant d'en changer parmi les gens qui embrassent ma profession de coureur d'océan et de fortune. Français je fus, davantage par défaut que par désir, et cette nationalité que je n'ai pas choisie ne m'a guère été d'un grand secours sur une mer caraïbe où les drapeaux feront toujours office de linceul pour les crédules et les exaltés. Vous voyez que ça démarre très fort, et curieusement, premier choc, ça démarre par la fin. On sait déjà ce qui va arriver au capitaine, plus exactement, on sait qu'il va y laisser la vie, et son bateau aussi. Des chronologues, curieux nom pour un capitaine, un bateau de capitaine pirate en 1653. Et puis au fur et à mesure, si on regarde les chapitres sans les lire, il ne faut pas voir trop vite ce qui va se passer, les dates, elles ne se suivent pas. On se balade dans le temps. Et on commence à soupçonner que ces pirates, visiblement, sont confrontés à d'étranges choses temporelles, et que donc c'est bien une histoire de pirates, et une vraie, vous verrez, passionnante, mais que c'est aussi une histoire de science-fiction. Alors Stéphane Beauverger, d'où vous est venue cette idée farfelue de mélanger la science-fiction, les paradoxes temporels et les pirates ?
Ben, en fait, c'est venu très simplement, je ne sais pas si vous m'entendez ? Oui, on entend le micro ? D'accord. C'est venu très simplement du désir que j'avais depuis de nombreuses années de raconter enfin mon histoire de pirate et essayer de rendre hommage à la littérature d'aventure maritime de ma jeunesse. Et j'avais eu la chance de rencontrer Michel Lebris, un des plus grands spécialistes de la piraterie, et qui avait eu cette phrase assez définitive et assez juste, sur les pirates on a à peu près tout dit. Donc il fallait quand même que je trouve ma petite manière à moi d'aborder le sujet. Et j'ai dans ma poche un petit carnet sur lequel je note des idées qui me passent par la tête. Et à un moment, un jour, j'ai écrit « Un navire pirate dont les canons tirent du temps ». Et je ne savais pas encore exactement où est-ce que j'allais en arriver, mais je savais que c'était que j'avais mis là le doigt sur une thématique qui m'intéressait, mélanger la grande geste caraïbe et la grande aventure des pirates du XVIIe et du XVIIIe siècle dans le golfe du Mexique, et l'idée de paradoxe temporel, on n'est pas très loin du triangle des Bermudes, c'est une région qui paraît-il est soumise à des petits caprices du temps, et donc voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée, c'était ça, c'était mélanger deux thèmes qui m'intéressaient beaucoup, c'est-à-dire à la fois raconter une authentique histoire de marins, de pirates, d'abordage, de sang, d'or, de gloire, la possibilité pour le temps d'être brisé au point que je pouvais mélanger mes chapitres et essayer de noyer le lecteur aussi dans cette débâcle temporelle.
Laurent Wall, on est dans une forme de piraterie un petit peu plus classique apparemment. au début. Au début. Avant, ou peut-être ailleurs, vous voyez quand même, hein, tout de suite on sent que c'est pas tout à fait des pirates sans, dans le temps classique de l'histoire. S'il est un bruit terrifiant, un bruit qui brise les nerfs les plus aguerris, c'est bien celui d'un abordage. Peu d'astros y ont survécu pour en parler. En fait, la mémoire collective se perpétue par les gestes des frères de la course et par les récits hallucinés de rares otages rendus hébétés à leur monotonie. Oui, c'est bien là le craquement le plus extraordinaire. Quand les membrures d'acier cohérents gémissent sous la pression, vous sentez la douleur jusque dans vos propres côtes. Comme si le monstre, à l'extérieur, bord à bord avec votre navire, vous écrasez directement le flanc. Vous suffoquez, vous avez froid, du froid de l'espace qui vous attend là, juste à l'extérieur de cette porte de sas sur le point d'exploser. Si vous êtes de la stellaire, vos mains glissent dans vos gants de scaphandre. Cette arme est-elle chargée? Se rendre ou résister? Dans les hurlements de sirène, la cohue et les éclairages d'alerte, votre cerveau bouillonne. Vous êtes vide et courez au hasard. Un autre claquement, une déflagration, votre visière s'est immédiatement fermée. Et la dépression vous fait perdre l'équilibre, le temps qu'une écoutille se referme. Maintenant, c'est le silence. Brutal, glacé. Sans y penser, vous titubez en position debout, à l'instant même où la pesanteur artificielle s'annule. Ils sont déjà au contrôle. Cette pensée vous fouette et vous aide à combattre la nausée occasionnée par le déséquilibre. Un double cliquement de paupières connecte le transcom. Immédiatement, c'est une avalanche de cris d'ordre divers qui ne vous sont pas adressés. Alors que vous vous cramponnez à la main courante de la coursive, dans le vacarme de votre casque, vous n'avez plus qu'une seule idée en tête, les capsules de survie. Un coup de chance d'avoir été de garde au début de l'attaque. Un dernier coup d'affranchir et l'écoutille du quai d'évacuation apparaît. Du fond de votre mémoire surgissent les mots d'un instructeur dont vous avez oublié le nom. Les capsules sont quasiment indestructibles. De plus, leur vitesse initiale en fait des cibles difficiles à ajuster, paraît-il. Bien sûr, à l'époque, vous en aviez ri avec vos copains. Les capsules, c'est juste bon pour les larves, les trouillards et les civils à la limite. Combien de fois vous étiez-vous imaginé en héros fabuleux, crachant la foudre et répandant la terreur sur vos ennemis? 10 fois, 20 fois, pendant les soirées de beuverie, dans des astroports dont les coordonnées se perdent dans l'alcool. Et puis il y avait la benzécodine qui, versée dans la tambouille de bord, décuple l'agressivité. Oui, mais voilà, après 4 heures de quart, les effets s'estompent et ne laissent de vous que ce que vous êtes, un petit gars d'Almata 5 qui aurait dû être fermier. Un autre victime des holos en couleur de la stellaire, l'aventure, l'argent, la gloire, une poignée d'abstraction vide de sens. Ici et maintenant, l'éclat des médailles se ternit, l'avenir se dégonfle. Qu'est-ce que fait un pilote de la stellaire dans une histoire de pirate, Laurent Wall?
il va pas y faire grand-chose parce qu'il va mourir dans très peu de temps.
Lui aussi.
Lui aussi, oui. Comme tous ses petits camarades de son vaisseau. En fait, c'est ce roman, donc, Stéphane a mélangé, on va dire, paradoxe temporel et piraterie. Et moi, je mélange, on va dire, extraterrestre et piraterie. Et c'est pas tout à fait de la piraterie, c'est de la flibuste. En fait, il y a une petite nuance. Les pirates attaquaient n'importe qui, et les flibustiers aussi, mais ils avaient une excuse. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Ils avaient une lettre qu'on leur remettait, et parfois ils laissaient les noms en blanc, histoire de pouvoir les remplir au dernier moment quand ça tournait mal.
Et les flibustiers n'attaquaient pas, par exemple, s'ils avaient des lettres de créance du roi de France, les navires français?
Théoriquement. Enfin,
oui, si théoriquement. Ils devenaient
théoriquement.
Mais certains avaient des lettres de créance, d'autres aussi. Faut savoir se diversifier. Donc là, le roman mélange en fait des gens qui viennent d'ailleurs. Donc ça, c'est un épisode qui se passe ailleurs, et le roman est émaillé de passages comme ça, où on voit les effets de l'action de ces gens sur Terre, on voit ces effets dans l'espace. Ce que j'entends par là, c'est que, en fin de compte, des gens venus d'ailleurs vont régler leur compte et ils vont tomber au XVIIe siècle, dans le monde de la flibuste. Pas par hasard, parce qu'il y en a un d'entre eux qui vient enlever des capitaines ou des gens très doués en flibuste pour leur stratégie, etc., pour les reconditionner et les faire travailler dans leur vaisseau à eux. C'est bien évidemment interdit par toutes les lois galactiques, et donc on a envoyé un agent spécial pour empêcher ça. Évidemment, lui, il doit tuer personne, il doit se fondre dans la population, alors que les autres ne se gênent pas pour se servir. Donc c'est toute l'histoire de cette chasse à l'homme à l'intérieur du monde de la flibuste au XVIIe, entre 1666 et 1669, parce que dans ces trois années, il y a un certain nombre de flibustiers célèbres, ou un peu moins célèbres, qui étaient tous en vie et tous dans la zone Caraïbe qui m'intéressait, qui est un petit peu la même que la tienne. Voilà. Ils sont, peut-être qu'ils sont croisés d'ailleurs, je ne sais pas.
Et en fait, moi, c'est en 1640, bon, c'est juste avant.
Ah oui, c'était avant, oui. Ben, j'aurais dû en parler. et donc, les flibustiers que j'ai employés à l'intérieur sont tous des personnages réels, pour lesquels j'ai fait pas mal de recherches, mais ce n'est pas un manuel de flibustes, c'est un roman d'aventure. Voilà. Ça dépote, ça éventre, ça torture, ça canonne, ça aborde, ça déchire, ça rançonne. Voilà, plein de joie comme ça, voilà, c'est plein de joie, voilà, de poésie aussi, on va dire, la poésie des armes. Voilà.
Les pirates, eh bien les voilà. Donc, Flibustière de John Eliot. Chapitre 1er, un pirate de la Caraïbe. J'aperçois le pavillon noir, annonça la vigie depuis son nid au perché au sommet du grand mât. Ce fut aussitôt le branle-bas dans l'entrepôt de la destinée, trois ma barque en provenance de La Rochelle. Au son de la cloche et les cris du maître d'équipage, matelots et moussaillons, charpentiers et calfats tombèrent de leur hamac, encore ensommeillés, mais déjà prêts au combat. Sur le pont principal, les hommes de quart se rassemblèrent sous la dunette pour recevoir les ordres du capitaine. Pendant ce temps, les officiers faisaient procéder à la distribution des armes, fusils, pistolets et grenades passés de main en main. Ceux qui n'étaient pas servis se contentaient de leurs couteaux, sinon d'un gourdin improvisé. Le lieutenant Chassagne fit irruption dans la cabine réservée aux passagers sans avoir pris la peine de frapper, ce qui témoignait de sa nervosité. « Il va y avoir du grabuge avec les pirates. Le capitaine m'envoie pour veiller sur vous. »« C'est fort aimable de sa part, » répondit Aristide Dumas, toujours déchirant un lambeau de drap propre qui alla rejoindre les autres pièces de chiffon près de la cuvette pleine d'eau douce. « Mais avez-vous déjà procédé à un accouchement, lieutenant ?» Les joues du jeune homme s'empourprèrent. Comme la plupart des sous-officiers fraîchement reçus à l'examen de lieutenant, il était tout juste sorti de l'adolescence et n'avait encore que peu vécu. Constatant son embarras, Aristide Dumas se fit plus conciliant. « Vous pouvez tout de même m'être utile. Occupez-vous d'Alexia pendant que j'assiste mon épouse dans son douloureux travail. » Un cri poussé depuis le fond de la cabine l'interrompit. Là, derrière un panneau de bois mobile, Aristide avait aménagé une couche à l'abri des regards. Avant de s'embarquer, il n'avait pas prévu de mettre au monde son deuxième enfant à bord d'un navire. Mais les aléas de la traversée en avaient décidé autrement. La mollesse du vent, les courants contraires et quelques avaries avaient considérablement allongé la durée du voyage. Et voilà que les pirates se mêlaient de compliquer davantage une situation déjà critique. « Bien, monsieur, » fit le lieutenant Chassagne, tout en reluquant du côté de la gamine installée sur un tabouret dans un coin de la minuscule cabine. Alexia Dumas, 8 ans à peine, tourna vers lui une frimousse grelée de taches rouges. Son regard émeraude étincelait quand elle demanda « Des pirates, pour de vrai ?»« Des flibustiers, plus exactement, mademoiselle, » corrigea le lieutenant. « C'est ainsi qu'on appelle les pirates de la Caraïbe. » Un nouveau cri jaillit de l'autre côté du panneau, suivi d'un filet de voix haletant. « Aristide, je crois qu'il arrive !» Dumas pâlit, son front se couvrit de sueur, il retroussa les manches de sa chemise, ressembla les lambeaux de drap et rejoignit sa femme en marmonnant une prière. « J'aimerais les voir, » dit Alexia. « Qui ça ?» demanda Chassagne, désorienté. « Les flibustiers, pardi. » C'est presque un jeu pour elle, c'est pas très prudent.
Et tout à fait, voilà, alors ça commence, mon héroïne a 7-8 ans à peine, et ça commence par un double drame. Son navire est attaqué alors qu'il arrive enfin à destination, dans cette fameuse zone Caraïbe, de façon qui est le décor à la fois réel, historique et naturel, où toutes ces aventures de pirates ou peuples doivent avoir lieu, je dirais. Et non, son navire est attaqué et sa mère met au monde son futur petit frère dans des conditions, justement, pour le moins désagréables. Et donc, c'est un ouvrage qui s'adresse à la jeunesse, donc c'est pour ça que tout est raconté, tout est vu du point de vue de cette héroïne qu'on va suivre, donc de l'enfance jusqu'à l'adolescence et tout au long de ce roman. Elle-même, depuis cette rencontre, depuis cet abordage, va être fascinée par le monde de la flibuste. Très vite d'ailleurs, son livre de chevet va être la fameuse histoire, l'histoire des plus fameux pirates par le capitaine Johnson, alias Defoe, mais on ne le savait pas à l'époque, pour elle c'était le capitaine Johnson. Et c'est un livre en fait qui mêle l'histoire et les légendes autour des plus fameux pirates de la grande époque, celle qui est décrite par mes camarades dans leurs propres ouvrages, Et cet ouvrage a très longtemps fait autorité. En fait, on prenait pour un ouvrage de fait historique. Et ma jeune héroïne va découvrir que dans ce livre, il est fait référence dans un chapitre à deux femmes pirates, Marie Reed et Anne Bonny. Et elle découvre émerveillée qu'une femme peut se livrer également à ce genre d'activité. Donc voilà qui va fortement l'impressionner et décider, je dirais, du choix de sa carrière, en plus des circonstances historiques qui vont la pousser à elle-même devenir, dès l'adolescence, une flibustière.
Comment vous avez eu l'idée, Stéphane Beauverger, donc de, on explique au début cette histoire de canon qui tire du temps, mais surtout comment vous avez eu l'idée de construire votre histoire de pirate en jouant sur une étrange temporalité. D'ailleurs, j'avoue que je me suis demandé, lorsque nous avions, collègues et moi-même, incité les lycéens à lire ce livre, puisqu'il était dans la sélection du prix imaginal des lycéens, choisi par mes collègues, on s'est dit, il peut plaire un certain nombre d'élèves. Bon, il gagnera de toute façon pas le prix, parce que quand même, c'est quand même un livre, je dirais pas difficile, mais qui demande quand même un investissement, même si c'est un livre passionnant, une vraie histoire d'aventure. Et les lycéens nous ont donné tort, non pas sur le choix du livre, puisqu'on l'avait beaucoup aimé, mais ils l'ont choisi, ils l'ont donc trouvé lisible, et pourtant, encore une fois, on a un moment de surprise, puisqu'on se promène par des va-et-vient temporels. Comment vous avez construit ça, et comment vous avez pensé que les lecteurs pourraient le recevoir?
Bah, en fait, c'est une vaste escroquerie, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que je fais croire que c'est prévu, et en fait, c'est une erreur d'impression. Non, évidemment, mon idée, puisque je voulais inventer cette idée de navire pirate qui est capable de générer des poches de temps surnuméraires, je voulais également essayer de plonger le lecteur dans ce que peut ressentir le capitaine du déchronologue, c'est-à-dire essayer de plonger le lecteur aussi dans un début de décrochement temporel en mélangeant mes chapitres. Et je ne voulais pas l'avertir dès le départ, donc je commence vraiment très gentiment par le premier chapitre qui se passe à Port Margot en 1640. Et ensuite, il y a un autre épisode immédiatement, le chapitre suivant, ce n'est pas le chapitre 1, c'est le chapitre 17. Mais c'est juste indiqué, il y a la date, c'est tout. Et si le lecteur ne se rend pas compte forcément immédiatement qu'il vient de faire un saut de 10 ans dans le futur, moi ça m'arrange. Parce que ça veut dire qu'il va commencer à se prendre la tête et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc c'était vraiment un petit jeu d'écriture, essayer de générer des petits décrochements de temps également dans le fil de la narration. Et c'était aussi, pour moi, me permettre de me dégager de certaines contraintes de suspense, par exemple, qui sont une problématique classique de l'auteur dans un roman. Je commence par la fin, le capitaine dit qu'il va mourir et qu'il a échoué. Donc ça, ensuite, il va falloir comprendre en 300 pages comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et ensuite, chacune de ces petites tranches temporelles, chacun de ces chapitres, constitue une mini-histoire, et je n'ai pas forcément à l'intégrer dans une trame qui irait de A à Z. Et ça, c'était un petit défi de scénariste.
Laurent Well, les histoires de pirates, il ne faut quand même pas échapper à la scène de l'abordage. Voyons comment vous avez traité la vôtre, chapitre 6. Paré à l'abordage, l'ordre passe d'homme en homme. Bien sûr, j'ai connu d'autres batailles, sur d'autres mondes primitifs. Mais ce combat naval a quelque chose d'irréel et de sauvage. Le vacarme, les cris, la fumée et l'odeur de la poudre, le cliquetis des armes, la chanson de la mort. Courageusement, les 3 Espagnols s'interposent entre nos 2 vaisseaux, faisant pleuvoir sur nous l'enfer de leurs canons. Le premier met en panne juste entre le secoureur et nous. Ils ont un sacré cran. La Providence tremble de toutes ses membrures sous l'impact des boulets. Les balles fusent en tous sens, quelques cris de douleur ou d'agonie montent parmi nos hommes. Mais l'ordre de feu ne vient toujours pas. L'Olonais est debout sur la dunette, droit comme un i, longue vue rivée à l'œil, indifférent à l'orage de mitraille. Tassé contre la rambarde, le nez collé aux planches de pont, je sens les vibrations du navire. Chaque impact résonne dans mes os, chaque cri me pénètre. Contre moi, l'odeur des hommes couvre l'espace d'un instant, celle de la poudre. La peur coule par tous les pores. J'en oublie même mon principal ennemi. Notre petite guerre importée semble dérisoire au regard du carnage qui se prépare. À cet instant, je n'ai plus qu'un objectif. Survivre. S'il attend encore, il n'aura plus personne pour l'abordage, grogne mon compagnon en retirant, sans même grimacer, une énorme écharpe fichée dans son épaule par l'éclatement d'une partie du plat-bord. Soudain, dans un froissement indescriptible, le malheur Timon s'abat, sectionné net par un boulet à chaîne. Un concert de hurlements s'élève, vite couvert par une autre volée de mitraille. À 2 mètres de moi, un mouche gémit, retenant à grand peine ses tripes, qui courent entre ses doigts. Son visage pubère se tord de souffrance et de peur. Sous lui, flaque brune s'étale, qui vient me laisser le visage. Rien que je puisse faire. Je ne bouge pas tandis qu'il se tasse enfin, laissant ses entrailles filer comme des nœuds de serpent chaud. Dans nos rangs, la colère commence à couvrir le vacarme, quand enfin Nau nous fait face. Feu à volonté, au poste d'abordage. C'est la ruée. Je me précipite à la suite de mon robuste ami vers les 5 chaloupes que nous empoignons en plusieurs pour les jeter par-dessus bord. La Camarde taille des trouées sanglantes autour de nous. Quelque part là-haut, il doit y avoir un quelconque dieu des étoiles qui veille sur mes os. Les balles et les éclats sifflent dans un vent d'enfer. Pourtant, je ne suis pas blessé. Pas encore. En glissant sur le sang qui macule le pont, j'enjambe la rambarde, juste entre 2 sabords. Le déchaînement de nos canons nous assommerait presque. Dans mes mains, le cordage est poisseux, tandis que je me laisse descendre vers le canot qui cogne contre la carène. Méchante sensation que de tourner le dos, fût seulement pour un court instant, exposé au tir ennemi. « Allez, saute, Yoran !» me crie-t-on d'en bas. Les biospies qui nous survolent n'ont donné à voir que les 2 derniers Espagnols se sont positionnés, eux aussi dans l'espace qui nous sépare d'Evans. Une sacrée manœuvre, compte tenu de l'archaïsme de ces vaisseaux. Facilité, il est vrai, par les faits que le Squaw et la Providence sont maintenant immobilisés. Le plan de l'Olonnais fonctionne à merveille, les pauvres croient sans doute servir d'écran à notre feu. Lorsque je tombe enfin dans la chaloupe, une 10aine de gars est déjà en train de s'activer à mettre les avirons à l'eau. Cris de guerre et invectives se mettent aux prières proférées à voix haute. Il me semble que toute la peur de cette planète a élu refuge dans mon ventre. Bizarrement, je me demande comment les autres interprètent ma grimace. Dans le cul du diable, Duran, qu'est-ce que tu fous ? Gardez la tête froide, surtout. Mes mains se referment d'elles-mêmes sur le manchon d'une rame et je tire violemment dessus. Le geste est venu tout seul, merci au séducteur. Les débris jonchent la mer et nous ne cherchons même pas à les éviter. La cadence est infernale. Devant moi, le dos puissant de bras de fer s'arc-boute au même rythme. Pour ne pas penser, je me ressens sur mes muscles. Plonger, tirer, plonger, tirer. Faisant écho à nos efforts, la chaloupe grince et se cabre, claquant fort sur les vagues. Juste au-dessus de nos têtes, l'air vibre au passage des boulets de fonte qui percent le brouillard graisseux. Bientôt, les cris espagnols dépassent en volume ceux de notre camp. Dans mon estomac, le nœud se resserre d'un cran supplémentaire. Soudain, un énorme craquement. La chaloupe à notre droite vient découper d'un boulet rasant. En une seconde, ce n'est plus qu'un geyser de planches, d'avirons et de corps entremêlés qui s'élèvent à 4 ou 5 mètres. Ignorant le déluge de fragments qui nous éclabousse, le gagneur hurle « Souque et ferme, sous espagnols !» Nous ne sommes plus masqués que par intermittence. Déjà, du plat bord de l'espagnol, des fusils pointent dans notre direction. La dernière minute du parcours est un calvaire meurtrier. 3 des nôtres ne sont pas dans un jour de chance. Le type à côté de moi fait soudain un bond et retombe en travers de son banc. Une bonne partie de son visage et l'arrière de sa tête ont disparu. Son voisin de droite ne prend même pas la peine d'essuyer le magma de sang et de matière cervicale qui le macule. Je serre les dents, mon dos est en feu. Les grosses balles de plomb claquent sur le bois de la chaloupe. Je prends conscience que j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Peu importe, c'est un voyage à sens unique. Plonger, tirer, plonger, tirer. À chaque sourd, nous avons touché. Lancez les grappins à l'abordage. Voilà, c'est vraiment comme ça, un abordage à bord de navires pirates au XVIIe siècle. Est-ce que vous êtes documenté sérieusement à la Romuald pour raconter votre scène d'abordage, même si vous avez bien vu les séducteurs et autres, il y a quelques éléments de science-fiction, mais sur la partie abordage, navire, combat, est-ce que vraiment l'Olonnais, ce personnage historique, ce réel chef pirate et flibustier de grande envergure, est-ce que réellement vous avez travaillé les documents?
Oui, absolument. Oui. J'ai fait tous les personnages pirates, enfin flibustier, d'accord, on s'entend bien, qui sont dans ce roman, ont tous existé. Jusqu'au dernier, y compris même le mousse qui est mentionné dans le roman, pas celui qui meurt là, mais un autre, a été cité, relaté dans les chroniques de certains capitaines. Donc j'ai fait pas mal de recherches, notamment au musée de la marine, où j'ai pu ouvrir des livres, des romans, des comptes rendus qui ont été écrits à l'époque par des spectateurs de ces scènes-là. Donc en exergue du roman, il y a une citation d'un de ces personnages qui était Alexandre Olivier Huxmalin, qui était un chirurgien de la marine qui est passé chez les pirates et chez les flibustiers, et donc qui a raconté toute cette histoire. Et son roman à lui, il est chaque chapitre est un personnage, et vous pouvez plonger dans son histoire. Alors évidemment, il faut faire la part des choses. J'ai lu notamment d'autres ouvrages de Michel Lebris, que tu citais tout à l'heure, qui est un grand spécialiste de ce monde-là, de la navigation, de la fidélité, de la piraterie. Et donc il faut faire la part des choses entre ce que racontent les gens de l'époque, qui essayaient surtout de s'éviter la corde dans leur récit, de la réalité des faits. Donc, parce que ce type-là se donne le beau rôle, évidemment, quand il y a eu... à chaque fois que quelque chose de très sanglant s'est produit, il dit « on m'a raconté que ». Voilà. Donc il n'était pas là, bien évidemment. Hein. Donc il est quand même de notoriété de savoir que certains de ces chirurgiens utilisaient leur savoir pour faire donner des informations par les prisonniers. On imagine comment. Voilà. Donc là, il y a une scène un petit peu comme ça là-dedans, parce que j'ai essayé de coller à la réalité des faits pour ce qui était des pirates. Je n'ai pas utilisé, ou très peu, certaines de leurs vraies actions, mais j'ai inventé d'autres actions avec leur stratégie. Notamment, savoir que le principal de leur business, ce n'était pas les abordages. Le principal de leur business, c'était de se trouver un bateau, et avec ça, ils faisaient éventuellement des abordages, mais ce qu'ils faisaient surtout, c'était du rançonnage, de l'enlèvement. Ils attaquaient des villes, ils les rançonnaient, ils récupéraient les notables pour les vendre, ils tuaient tout le monde, ils récupéraient tout ce qu'ils avaient récupéré. Donc ils ont enlevé des gouverneurs, ils ont enlevé des capitaines de navires, ils ont enlevé des gens, y compris des gens de la couronne d'Espagne qui avaient le malheur de se trouver par là, pour les rançonner. Ça existe aussi dans l'armée.
Cette fois-ci, le roman historique, là, on est uniquement dans l'histoire. Vous avez vu qu'il y a quand même des éléments historiques très sérieux chez nos écrivains d'imaginaire, ce qui est quand même intéressant. Mais là, on est vraiment, bien sûr, dans le roman, personnage inventé, mais avec tout un background historique. Un vote s'indigne à Bonafé, un conseil de pirates, et puis quoi encore? Maître Dumas songe avec amertume que ses paroles auraient eu un drôle d'écho si elles avaient été prononcées dans le Paris de la jeune République française. Mais il s'avisa de ne surtout pas l'approcher au second, afin de ne pas envenimer la situation. Le capitaine Logan m'a paru un homme raisonnable, dit-il. Un Anglais poids, cracha Bonafé, à coquiner avec les pires canailles de la mer des Caraïbes. Où aviez-vous donc la tête, monsieur? J'aspire à épargner nos vies, monsieur, rétorqua l'avocat en désignant les autres occupants du carré, blottis dans un coin. Au retour de son père, Alexis avait bondi de joie. Après une fougueuse embrassade, elle était revenue s'asseoir auprès de son frère et du lieutenant Chassagne. « Tout va bien », avait-elle soufflé au-dessus du panier de Jonas. « Papa s'est entendu avec les flibustiers. Bientôt, nous retrouverons maman et nous pourrons terminer notre voyage. » À ces mots, Chassagne avait senti une boule se former dans le fond de sa gorge. « Pauvre gamine », avait-il pensé, tout prêt de faire l'expérience d'une cruelle désillusion. « Je suis résolu à affronter sans crainte ces bandits, » fanfaronna le second. « J'ai encore suffisamment de balles et de poudre pour en emporter quelques-uns dans la mort avant moi. » « Êtes-vous conscient de tous nous condamner en réagissant ainsi, bougre d'imbécile ?» éclata soudain Aristide Dumas. C'en était plus qu'il ne pouvait supporter. La bête obstination de l'officier mettait ses nerfs et sa patience à trop rude épreuve. Comment pouvait-on se montrer si obtus? Il fallait bien être militaire pour cela. En toute autre occasion, je vous demanderai réparation pour cet insulte, dit Bonafé glacial. Je n'ai pas pour habitude de me laisser traiter de la sorte. Mais je vais mettre cet écart de langage sur les comptes de la nervosité et vous rappeler que je représente la plus haute autorité sur ce navire depuis la mort de notre capitaine. Le commandement de la destinée me revient de droit. Dans ce cas, permettez-moi de vous faire remarquer que vous ne commandez plus que le carré. Le reste du bâtiment est entre les mains des flibustiers. Peut-être cela vous a-t-il échappé, capitaine? Le front et les joues du second virèrent au violet. Le sarcasme lui fit l'effet d'un soufflet. Le lieutenant Chassagne jugea bon d'intervenir. Messieurs, je vous en prie, il nous faut parler d'une même voix face à nos geôliers. Ce genre de défaitisme confine à la trahison, lieutenant, aboya Bonafé. Nous ne sommes pas vaincus. Avez-vous déjà vu un pistolet porter l'épée et brandir un pistolet? Un prisonnier porter l'épée et brandir un pistolet? La question demeura en suspens quelques instants. Puis la réponse tomba, mais pas de la bouche de l'infortuné Chassagne. Il me serait agréable, monsieur le second, de vous voir vous démettre de ces encombrants accessoires. Le capitaine Logan dardait son regard de pierre sur Bonafé par-dessus l'obstacle dérisoire de la table renversée. Il n'était pas apparu seul, deux fusils l'entouraient, canon pointé sur l'officier, tremblant de frustration. « Je peux vous régler votre compte sur le champ, » avertit Logan, « mais je n'aimerais pas me priver, mais gagne un peu de distraction. » Pas très rassurant.
Pas du tout, et on se trouve tout à fait dans le cas de figure de ce que Laurent décrivait. Voilà, après l'abordage, les personnages les plus importants du navire s'apprêtent à être pris en otage pour une demande de rançon, qui sera payé par leur gouvernement ou leur famille, etc. Et surtout, bien, l'un d'eux, en l'occurrence l'officier français Bonafé, qui est mon méchant du roman, lui va passer un sale quart d'heure, parce qu'effectivement, après la tension extrême de l'abordage et de la bataille, les filles-ci ont envie de s'amuser un petit peu. Alors là, à nouveau, ben, je me suis inspiré d'un vrai jeu que j'ai trouvé dans la documentation qui m'a servi pour construire le récit. Et j'ai oublié le nom qu'il leur donnait, mais le jeu consistait, c'était assez amusant. Donc ils se réunissaient autour du pied du mât principal, donc dans l'entrepont du navire, et ils délimitaient un cercle avec des bougies, et le prisonnier devait danser au son d'une gigue. Alors un violoniste apparaissait, il dansait au son de la gigue, on le faisait danser de plus en plus vite, ça tournait très longtemps, et les flibustiers se réunissaient autour du cercle, et avec tous les objets pointus à disposition, commençaient à larder le postérieur, les jambes. Au bout d'un moment, les pauvres étaient en sang, la peau arrachée, etc. Et ils devaient danser, et si parfois ils s'arrêtaient, on le tuait. Bon, là, il s'en sortira, mais donc du coup, ça va lui donner des idées de revanche, hein, mon personnage.
Oui, c'est vrai que dans ces navires flibustiers, ça dépendait sur qui on tombait, mais là aussi, les choses sont souvent plus subtiles dans la réalité historique. Je pense que vous l'avez constaté en voyant les documents, c'est que ce n'étaient pas tous des tueurs sadiques et assassins, c'était avant tout des aventuriers, des types qui étaient là pour rafler le maximum d'argent et faire des prises. Donc, il y avait aussi beaucoup de bon sens. Et par exemple, arborer le drapeau noir, ça ne voulait pas dire « on va tous vous tuer ». Ça voulait dire « nous sommes des pirates » et en gros, vous avez deux choix. Vous vous rendez sans tirer un coup de feu. On va vous piquer votre argent, vous prendre en otage, vous récupérer, mais on va se comporter de façon relativement civilisée. Vous résistez, vous nous créez des dégâts, vous tuez de nos hommes, et dans ce cas-là, pas de quartier. Et puis, quand on abordait un navire, il y avait aussi parfois les marins qui demandaient aux autres marins est-ce qu'ils avaient été bien traités.
Exactement.
Voilà. Racontez ça.
Assez souvent, l'abordage était aussi l'occasion de recrutement, et souvent les marins de base, étaient interrogés, on leur demandait souvent comment vos officiers se comportent, allez-vous. Alors là, si on disait effectivement tel maître d'équipage ou tel officier en fait est un salaud qui nous a torturés, enfin qui a abusé du fouet, parce que c'était le cas très fréquemment, là celui-ci passait un sale quart d'heure, enfin il finissait très mal. Et souvent, voilà, une bonne partie de l'équipage attaqué profitait de l'occasion pour reprendre sa liberté, surtout quand il s'agissait de soldats, surtout quand il s'agissait d'équipage appartenant à une marine officielle, parce que les conditions étaient atroces à bord des bateaux des marines royales. Et ils préféraient prendre le risque d'avoir une courte vie de pirate ou de flibustier, parce que ça se finissait quand même souvent rapidement, mais de vivre avec une certaine liberté.
C'est pour ça que les vaisseaux étaient, les équipages étaient si cosmopolites, en fait.
Exactement.
Il y avait de toutes les origines. Un navire flibustier, c'était comme une république, parce que le capitaine lui-même était élu. C'était pas obligatoirement parce qu'il arrivait avec de l'argent en disant « je suis capitaine, t'inquiète à soin, qu'il allait être capitaine. Les hommes votaient.
Et avant de revenir au livre et au débat, une autre anecdote pour vous montrer que c'est passionnant l'univers des pirates, qu'il soit traité par des écrivains d'imaginaire, de science-fiction ou par des romanciers historiques, et parfois qui font l'un et qui font l'autre. Une autre anecdote tout à fait authentique, le manifeste communiste de Karl Marx, qui appelait donc les prolétaires à la révolte contre la bourgeoisie, un livre qui est quand même fort connu, il avait un peu de sous, Karl Marx et surtout Engels, mais pas beaucoup, il avait du mal à financer le premier tirage. Et savez-vous qui a aidé à financer le manifeste communiste de Marx et Engels? Eh bien, le célèbre pirate flibustier Jean Lafitte.
Corsaire,
absolument, Jean Lafitte. Et une partie de l'argent acquis lui a servi à financer le manifeste communiste, parce qu'il trouvait que finalement le partage proposé par Karl Marx était assez proche de la société des pirates et de sa répartition, puisque les pirates avaient une sorte de sécu de l'époque, hein, sécurité sociale, vous aviez un membre, c'était tant, etc., de façon à ce qu'on n'abandonne pas leur destin, les pirates blessés, borgnés ou malades.
En fait, c'était un contrat, c'est-à-dire que le capitaine faisait un contrat avec chacun des membres de l'équipage, et selon ce qu'il amenait à bord, une compétence, voire du matériel, est-ce que tu viens avec tes propres armes, est-ce que tu sais recoudre quelqu'un, etc. Et on négociait la somme, et effectivement, il y avait la chasse-partie, c'est-à-dire que si on perdait un bras, une main, un œil, il y avait un remboursement, il y avait la sécurité sociale des pirates.
On était payé en argent, ou en valeur, ou en esclave. Ouais.
Et si on n'était pas content du commandement, on pouvait destituer, imaginez dans votre entreprise, vous n'êtes pas content de votre patron.
Une société intéressante, ces pirates, finalement. Ah, il y a des choses parfois. Ouais. Trois semaines plus tard, nous étions quatre bâtiments, armés pour la guerre, à remonter lentement vers le nord en direction de notre destination. In extremis, la Marie-Juliette du capitaine Ballant et l'Ange du Lion du capitaine Drouzic nous avaient rejoints au lieu de rendez-vous fixé au large des quais. S'il fallait croire certains datères, au moins trois autres navires avaient quitté Basse-Terre et une rude tempête les avait épargnés quelque part au nord de Cuba. Au risque de se faire repérer, et d'attirer sur lui les foudres du vaisseau fantôme, le capitaine Drouzic avait usé de sa radio de bord dans l'espoir d'obtenir des nouvelles des disparus. Aucun ne s'était manifesté. Le Hollandais volant avait certainement pris son dû. La radio de bord chez les pirates.
Eh ben oui, parce que à partir du moment où il y a des paradoxes temporels, il y a des objets, il y a des personnes qui viennent du passé ou du futur. Donc, au tout début de l'histoire, le capitaine Villon n'arrive pas à comprendre. Il se fait prendre en chasse par un navire espagnol. Et ça, je voulais en dire deux mots tout à l'heure. La scène de l'abordage, effectivement, une scène très classique de l'imaginaire pirate. Mais il ne faut pas oublier qu'un abordage, c'est la conclusion d'une traque et d'une chasse de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. C'est extrêmement lent. Les navires se déplacent, on essaye de gagner du temps, on essaye de gagner quelques miles. Il peut se passer une nuit, on peut essayer de tricher. Et l'abordage, c'est vraiment le moment où on ne peut pas faire autrement. Si on peut ruser en capturant une cité, en se faisant passer pour un navire marchand, évidemment qu'on va essayer d'en passer par là. Et donc au début de mon roman, les Espagnols qui sont depuis très longtemps, enfin qui sont depuis presque un siècle dans les Caraïbes, eux ont commencé à trouver qu'il y a des petits paradoxes temporels et qu'il y a des éléments qui viennent de différentes époques et commencent à doter de ces objets que j'ai appelés les maravillas, les merveilles, des objets venus d'autres époques qui leur donnent une puissance technologique. En fait, j'ai remplacé la quête de l'or par la quête des objets technologiques. Et les Espagnols disposent de radios. Et évidemment, il y a un secret absolu sur cette possession et le capitaine Villon ne comprend pas comment ça se fait qu'il repère une frégate espagnole qui le prend en chasse, il réussit presque à lui échapper, et il y a un phénomène de tenaille qui se fait, il y a une deuxième frégate de chasse qui apparaît sur sa gauche, et avec une précision qu'il décrit comme étant diabolique, réussissent à le ferrer, et dit « il faut avoir au moins l'aide du diable pour réussir une manœuvre de ce genre ». Non, les Espagnols possèdent la radio. Et évidemment, les pirates, la première chose qu'ils vont faire, c'est essayer de se doter de cette technologie pour enfin se battre avec les armes que possèdent les Espagnols, ce qui est le cas à ce moment-là du livre.
Ce sont les maravillas, les merveilles, ces choses dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent, mais dont qu'on trafique et qu'on utilise. C'est un monde où il y a des choses venues d'ailleurs, c'est un monde de trafic et d'échanges de la piraterie. Donc finalement,
ça reste du commerce.
Bien. Philippe Bustière, donc de John Eliot, un petit extrait encore. Quand il ne tenait pas la barre, Logan passait le plus clair de son temps en compagnie d'Alexia, ne s'octroyant que de brèves périodes de sommeil. Et oui, la jeune femme a embarqué à partir sur le vaisseau pirate. Voilà, flibustier. Je tiens à m'assurer qu'en cas de coup dur, vous ne serez pas démunis, expliqua-t-il en lui confiant une épée dès le premier jour du voyage. J'ai le pistolet de mon père, l'informa la jeune femme. Jean Lafitte m'a appris à m'en servir. Je ne suis pas aussi fin terreur que lui, mais j'ai tout de même réussi à percer d'une balle quelques noix de coco. Ce n'est pas la même chose que percer un crâne, rétorqua Logan. Et puis votre arme ne pourra être utile qu'une fois. Ensuite, il faudra manier le fer. Alors, autant vous enseigner quelques bottes et quelques feintes. En garde. Il avait dégainé sa propre lame et pris position pour l'attaque. Observez mes gestes, ma posture. Voyez comme je dispose mes membres de façon à protéger mes organes vitaux dans un combat à l'épée. Durant l'abordage, il n'y a pas de demi-mesure. On ne frappe que pour tuer. C'est le meilleur moyen d'éviter de se faire tuer soi-même. Une hésitation s'avère toujours fatale. Posez-vous cette question en toute honnêteté, mademoiselle Dumas. Serez-vous capable d'ôter une vie pour protéger la vôtre ? Alexia réfléchit avant de répondre. Je ferai ce qu'il faut pour me défendre, même si cela me répugne. Voilà ce que je voulais entendre. Attention, parez à droite. Logan frappa de taille avec le plat de la lame. Le coup atteignit sa cible en haut de l'épaule d'Alexia. Elle n'avait pas été assez vive, ni assez concentrée pour l'éviter. Je vais recommencer plus lentement, avertit Logan. Vous relèverez votre épée comme ceci de façon à bloquer mon fer. Puis, vous me repousserez de toutes vos forces jusqu'à tenir au contact, corps à corps, tandis que les cartes de nos épées s'entrechoqueront. Compris ? Le sens de la parade n'apparaissait pas très clairement à Alexia. Elle adressa néanmoins un signe positif à son maître d'armes. Logan fit exactement ce qu'il avait annoncé. Cette fois, son élève était prête. Elle enchaîna les mouvements à la perfection et se retrouva au final, la poitrine collée à celle de l'anglais. Merveilleux, souffla celui-ci. Il vola alors un rapide baiser à la jeune femme, avant de s'écarter d'un pavis sur le côté et lança une nouvelle attaque. « Ne vous laissez jamais surprendre par aucune ruse de l'adversaire », s'amusa-t-il.
Je tiens tout de même à préciser qu'ici, elle n'a plus 8 ans, elle a une quinzaine d'années. Hein,
parce bien compris.
Il n'y a pas d'équivoque.
On a bien compris.
On se place, alors c'est aussi quelque part un roman d'apprentissage, et ma foi, à la fréquentation, alors Logan, lui, est un déserteur de la Marine Royale, un Anglais, lui, je l'ai complètement imaginé, mais vous avez peut-être retenu le nom de Jean Lafitte. Voilà. Jean Lafitte est à un moment le mentor de mon héroïne. Alors, Jean Lafitte, qui était un personnage, alors, tu en parlais pour cette anecdote sur la fin de sa vie. Bon, il y a franchement des doutes historiques sur le fait qu'il ait vraiment financé. Parce qu'en fait, les derniers éléments réels historiques qu'on a sur le sujet, c'est après son évasion de la prison de Cuba quelques années avant. Mais enfin, c'est très beau. Cela dit, c'est tellement beau que j'aime à croire que c'est vrai, qu'il a vraiment financé le manifeste de Marx. Mais dans les années qui m'occupent dans ce roman, au tout début du 19e siècle, Jean Lafitte, d'origine française, vit au sud de la Nouvelle-Orléans, sur l'île de Barataria, et en fait c'est une sorte de communauté, de république c'est un bien grand mot, mais c'est une sorte de communauté libre de corsaires, pirates, enfin de qui veut bien le rejoindre. Et il est à la fois homme d'affaires respecté à Nouvelle-Orléans, corsaire, c'est-à-dire qu'il dispose d'autorisation officielle, de lettres de marque de différents gouvernements d'Amérique latine et autres pour aller aborder des navires ennemis. Marchand d'esclaves, il a comme une face peu reluisante, parce qu'effectivement c'était aussi le commerce d'esclaves pour les Américains de la Nouvelle-Orléans, mais c'est lui voilà, qui va former mon héroïne à la Phlebus, et ensuite voilà, il y a cette scène où elle apprend à se battre avec un maître d'armes anglais.
Eh bien, vous avez vu, moi je ne me rendais pas compte, le temps a passé, il est bientôt 13h, on a déjà dépassé l'heure prévue, mais finalement c'est signe qu'on était bien ensemble, et que finalement la Phlebus et les pirates, ça nous passionne dans les histoires que nous racontent nos auteurs, qu'il s'agisse de romans historiques pour jeunes, John Eliot, donc avec Flibustière, ou de romans de science-fiction, la garde stellaire qui vient quelque part s'entremêler dans les combats avec les pilleurs d'armes de Laurent Wall, prix Rognier-Né 2011, et puis le Déchronologue dans cette très belle édition de La Volte ou en version poche à Folio SF, le Déchronologue de Stéphane Beauverger, couvert de prix. On ne va pas tous les citer, mais égoïstement, on va citer notre tout récent prix Imaginal des lycéens. Merci à vous trois et retrouvez-les au stand. Les pirates, c'est là-bas.
Merci. Merci bien. Ouais. Vous installez votre stand. Ouais.